Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM 3W.RE2M.com pour cette première et mes conversations autour du cinéma de l'année 2021. Et on est avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien.
Et bonne année à toi.
Tu vas bien, t'as l'air de... Ben oui, comme je te vois toujours pas puisque je suis au téléphone, j'espère que tu vas bien. Je le sens à ta voix, voilà. Et puis, bonjour à nos chers auditeurs aussi. Merci de nous recevoir chez vous, bien sûr. En 2021, bon, ben voilà, on recommence. Allez, on recommence une année. On espère qu'elle sera sympathique et que tous les problèmes vont un petit peu s'amenuiser, que ça va un petit peu s'améliorer tout ça et que les cinémas vont pouvoir vous ouvrir leurs portes.
Et qu'on va pouvoir se revoir aussi. Ça sera bien.
Eh oui.
Alors, pour cette première émission de l'année, tu vas commencer par deux hommages à des artistes qui nous ont quittés pendant les fêtes.
Oui, tout à fait.
Et le premier, c'est un artiste, et tu as appris son décès juste à la fin du dernier enregistrement que l'on a fait. Donc, c'était au mois de décembre, là, autour...
Oui, c'est ça. Et c'est le jour de l'enregistrement, et on l'a appris juste après.
C'est ça.
Eh oui.
Et c'est ça,
le 22 décembre, il est décédé, Claude Brasseur. Je commence par lui, c'est lui qui est mort d'abord, le 22. Il y aura Robert Hossein, comme tu as dit, mais lui, c'était le 31. Donc, je commence par Claude Brasseur, le 22. Donc, il était né en 1936. Il est décédé le 22 décembre 2020. Il avait donc 24 ans, le pauvre. 84 ans. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'il aurait pu quand même, il faisait encore du théâtre. Il y a 3 ans, il faisait du théâtre et continuait à jouer. Et malheureusement, il y a justement 3 ans, il a été très affaibli par un AVC. Voilà. Donc, depuis 3 ans, il ne pouvait plus travailler. Il avait du mal à articuler, si j'ai bien compris ce que disait sa famille. Et donc, parce que sinon, sans cet AVC... je pense qu'il aurait continué encore quelques années pour monter sur scène, tout ça. Je crois qu'il aurait vraiment... il serait resté actif, hein, Claude Brasseur. On lui doit quand même un peu plus de 35 pièces de théâtre, un peu plus de 110 films aussi. Il a eu 2 Césars. Voilà. Et il s'est marié avec Michel Cambon, Brasseur, donc, en 1970. Et il est resté justement marié, ce qui est quand même très rare dans le milieu du cinéma, jusqu'en 2020, c'est-à-dire jusqu'à son décès. Elle était toujours là, son épouse. D'ailleurs, il est parti entouré de sa famille et de son épouse, voilà. Tant mieux. Et puis alors, il faut rappeler quand même vite fait que Pierre Brasseur était issu d'une famille d'artistes depuis très 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 longtemps. Hein. On peut même aller jusqu'aux arrière-grands-parents, enfin bon, c'est incroyable famille. Et ses parents étaient très, enfin ils sont toujours d'ailleurs célèbres, ils sont plus là mais ils sont célèbres. Sa maman s'appelait Odette Joyeux, c'était quand même une très grande comédienne, et elle est décédée en 2000, elle a 86 ans, Odette Joyeux. Ouais. Et puis, le papa de Claude Brasseur, c'était Pierre Brasseur, le grand comédien qu'on connaît, le grand acteur qu'on connaît, Pierre Brasseur, voilà, c'était un papa assez extraordinaire. Ça n'a pas dû être facile au début, hein, entouré de ces gens tellement talentueux. Mais Claude Brasseur y est arrivé, il s'est fait un double nom, si j'ose dire, puisqu'il avait le nom de son père, et il s'est fait un nom au cinéma sans problème, assez rapidement. Et puis il a un fils qui est comédien également, voilà, qui s'appelle Alexandre Brasseur. Oh, mais vous devez le connaître, mes chéris, parce qu'on le voit souvent, soit dans des séries télévisées, ce qu'on appelait avant des feuilletons aussi, voilà. Je crois qu'il a également tourné dans Maigret, avec Kramer, dans Maigret, voilà, dans la série Maigret. Et puis, il dit d'ailleurs de son père, Alexandre Brasseur, il dit que son père a vécu pleinement, effrontément. C'est joli, ça. Je trouve ça très joli. Claude Brasseur écrivait un journal, et qui a été repris par d'autres journaux, qui ont titré Claude Brasseur, le comédien de la fragilité. Dans la vie comme à l'écran, il s'est construit la famille qu'il rêvait d'avoir. Lorsqu'il montait sur scène, un 14 août, il achetait un billet et il priait les ouvreuses de laisser un fauteuil libre. Alors il y avait cette place vide vers laquelle le comédien pouvait se tourner, regard concentré. Pourquoi le 14 août? Eh bien parce que le 14 août 1972, son père, Pierre Brasseur, dont je viens de vous parler, était mort, il est mort le 14 août 1972 d'une crise cardiaque. Il n'avait que 67 ans. Et voilà, et lui, à cette époque-là, Claude Brasseur avait 36 ans et il venait d'être papa. Alexandre était né depuis peu. Et donc il a, voilà, on peut dire du coup de lui qu'il y avait comme un vide dans sa vie. Il avait, ah oui, entre autres, on a remarqué effectivement, il avait la même voix grave et rauque de son père, Claude Brasseur. Ces films, il a tourné dans des films plutôt réussis, hein, dans l'ensemble. On peut dire, ah oui, il a écrit des mémoires, je disais tout à l'heure, son journal intime, c'est-à-dire ses mémoires, où il a commencé à se confier sur son enfance, mais il avait déjà 78 ans. Avant, il ne voulait pas en parler, par pudeur probablement. Alors, dans ces films, moi, j'ai juste mis de côté des films qui sont très connus. Alors, évidemment, ça trompe énormément, 76, et 77, Nous irons tous au paradis. Voilà, avec Jean Rochefort, Guy Bedos, Victor Lanoux, il y avait Daniel Delorme, qui était d'ailleurs l'épouse du réalisateur. Il y avait Christophe Bourseiller, Marc Villalonga, oh là là, Marc Villalonga, qui fait des numéros extraordinaires dans les deux films, Martin Scorsese, etc. Alors bon, voilà, deux films formidables. C'est un plaisir de pouvoir les regarder de temps en temps quand on a le DVD, parce que voilà, ça remet les choses en place. On se sent bien à la fin de ces films, on se sent bien dans sa tête. Donc ils sont plutôt les médicaments qui font du bien et qui ne sont pas dangereux. En 1980, on l'a vu dans La Boum, hein, avec Sophie Marceau et Brigitte Fossé. Alors, en 1982, c'est La Boum 2. Voilà, il y avait Denise Gray aussi, la comédienne. Je pense qu'à l'époque, c'était la comédienne la plus âgée de toutes les comédiennes françaises. Denise Gray, délicieuse. Puis en 2006, évidemment, alors là, les films que tout le monde connaît, il s'appelait Jackie. Ça te dit quelque chose, Damien? Jackie?
Elle est dans Camping.
Ah voilà, tout le monde connaît Jackie. Voilà, le premier c'est en 2006, ensuite il y a eu Camping 2 en 2010, et puis Camping 3 en 2016. Alors on y trouve quand même Mylène de Mongeau, Franck Dubosc, Antoine Duléry, Mathilde Seigner, Gérard Lanvin, Christine City, voilà, dans ces trois campings, on a tous ces très bons acteurs. Et puis on l'a vu, alors, avant je voulais citer quand même 1992, le film d'Edouard Molinaro, Le Souper, qui est un film magnifique. Lui, il avait le rôle de Fouché, de Fouché. Et Claude Riche avait le rôle de Talleyrand. Il y a Michel Piccoli aussi dans Le Souper. Ah, très beau film. Puis en 2015, alors voilà, le dernier qu'on a pu voir sur les écrans, je pense, c'était L'étudiant et l'étudiante, pardon, et Monsieur Henri. Alors il y a Frédéric Blais de Tonquédec, il y a Anne Noiret, il y a Nadine Schmitt dans ce film. Voilà, de 2015. Ben voilà, on ne peut pas en dire beaucoup plus parce qu'il y a tellement justement de choses à dire sur lui qu'il faudrait une heure ou deux d'antenne, absolument, sur des monstres de cette taille-là, des monstres du cinéma, des monstres sacrés. Eh oui. Et puis après, eh ben oui, je voulais dire quelques mots quand même aussi sur Robert Hossein. Alors lui, Robert Hossein, il est décédé le 31 décembre, là, 2020. Il avait 93 ans. Voilà, donc ben lui, il a une mort paisible, hein, il n'a pas eu de gros soucis. Et il a réalisé, alors comme réalisateur, parce qu'il était acteur, réalisateur, il était metteur en scène. Alors comme réalisateur, il a réalisé donc 15 films. C'est entre 1955 et 1986, bon, à peu près. Et puis il a joué comme acteur dans à peu près 90 films, des longs métrages, entre 1948 et 2019. Et oui, sa carrière a commencé dans les années 48, hein, 48-50. À la télévision, on l'a vu quand même dans une dizaine de films, dans des séries aussi. Au théâtre, bon, ben, il a écrit 4 pièces de théâtre entre 1949 et 1963. Il a été comédien, il a joué dans 30 pièces de théâtre entre 1949 et 2010. C'est pas mal quand même. Et comme metteur en scène, il a monté 36 Ouh, oui, pièce de théâtre, entre 1949 et 2010 également. Et puis, il a été metteur en scène de grands spectacles. Entre 1975 et 2011, 22 pièces de théâtre, grands spectacles. On en a beaucoup parlé à l'époque, d'ailleurs, des grands spectacles de Robert Hossein. Eh oui. Donc, il était dialoguiste également. Et puis, alors... Les films que j'ai retenus, par exemple, Toi le venin, c'est lui qui l'a réalisé d'ailleurs, en 1959. Il y avait Odile Versoy et Marina Vladi, qui étaient sœurs d'ailleurs hein, dans la vie. C'était deux sœurs. Et Marina Vladi était son épouse. Elle a été son épouse entre 1955 et 1959. Donc dans Toi le venin, elle est encore son épouse. Ils allaient se séparer très peu de temps après. En 1961... Il a joué dans Madame sans gêne de Christian Jacques. Et oui, il jouait le maréchal Lefebvre. Et Madame sans gêne, bon, on connaît un peu son histoire quand même. C'était la femme du maréchal Lefebvre et qui avait un franc-parler et qui, paraît-il, parlait à Napoléon comme un bon copain. Donc là, dans ce Madame sans gêne de 61, parce qu'on a eu d'autres, c'est Sophia Loren qui joue le rôle de la maréchale Lefebvre. C'est très, très, très joli. Elle était tout à fait bien, hein, Sophia Loren, dans ce rôle, d'ailleurs. Et puis alors, là, après, il y a une série, mais qu'on connaît absolument, dont on a beaucoup, beaucoup parlé à l'époque, quand même, c'est la série des Angéliques. Est-ce que tu en as vu, toi? Est-ce que tu as vu? Il y en a 4. Est-ce que tu en as vu un sur les 4?
J'en ai vu aucun, mais j'en ai beaucoup entendu parler.
Ah oui, 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 ah ben oui. Le premier, c'était en 1964. Le réalisateur, d'ailleurs, de ces 4 films s'appelle Bernard Bordery, grand, grand réalisateur. Hein. Ensuite, en 1965, il y a eu Merveilleuse Angélique. Et puis, ensuite, 1965 également, il en a fait deux, Merveilleuse Angélique et Angélique et le roi. Alors, il s'agit du roi Louis XIV, hein, pour situer un peu l'époque, qui est tombé fou amoureux d'elle, d'Angélique, qui voulait absolument la voir comme maîtresse, enfin bref, qui lui cassait un peu les pieds, comme on dit. Voilà. En 1967, on a Indomptable Angélique. Et puis le dernier, 1968, Angélique et le Sultan. Alors là, évidemment, pendant toute cette série, on a des grands noms, des grands comédiens, des gens extrêmement talentueux. Michel Mercier, c'est elle, Angélique. Oh là, magnifique Michel Mercier. Alors on a des Claude Giraud, on a Philippe Lemaire, Jean Topard, Jean-Louis Trintignant, Claire Maurier, Noël Roquevert, Jacques Toja, je crois qu'il était de la comédie. Giuliano Gemma, c'était très bel acteur italien. Estelle Lablin, Michel Galabru, Jean Paradès, Samy Fray, Jean-Claude Pascal, Roger Pi. Puis le sultan, le méchant, s'appelle Ali Ben Ayed. Enfin, il est méchant dans son rôle, évidemment. Mais l'acteur était assez formidable, d'ailleurs, dans son rôle. Voilà. Et c'est les Angéliques, quand même, c'était d'après le roman de Anne et Serge Gollon. Je m'en souvenais plus, moi, effectivement, que c'était adapté d'un roman. Je me souvenais plus trop. Et puis ensuite, en 1973, on l'a vu dans un film de Denis de la Patellière, Prêtres interdits. Très beau film, avec Claude Jade, Claude Piéplu, Louis Seigné, Pierre Mondy, pareil, des comédiens. Et puis, l'avant-dernier que j'ai mis de côté, c'est Jean-Yann qui l'avait réalisé, enfin qui l'a réalisé, je ne vais pas parler à l'imparfait, parce que leurs films sont toujours là, présents, même s'ils ne sont plus là. Donc c'est Jean-Yann, Liberté, Égalité, Choucroute. On en a beaucoup parlé à sa sortie de ce film, parce que c'était comme un ovni dans le cinéma. Hein. On n'était pas très habitués. Il est très bien d'ailleurs. Il y a Michel Serrault, Ursule Andress, s'il vous plaît, Jean Poiret, Mimi Coutelier, qui était la compagne de Jean-Yann d'ailleurs. Et puis il y avait Gérard Darmon, Daniel Prévost, enfin voilà quoi. Que des bons comédiens. Et puis enfin, le dernier que j'ai mis de côté, c'est en 1982, Les Misérables. Et je crois qu'ils l'ont repassé à la télévision ces derniers jours, il me semble, en hommage à Robert Hossein. Oui, je pense qu'ils ont passé Les Misérables avec Lino Ventura, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de personnages dans Les Misérables. Enfin, il y a eu plein de films Les Misérables. Ça a commencé d'ailleurs dans les années 30. Après, il y en a eu d'autres, et celui-ci, c'est Lino Ventura. Il y a Jean Carmé, il y a Michel Bouquet, il y a Evelyne Wix, il y a Candice Patou. Alors, Candice Patou, c'était l'épouse de Robert Hossein. Ils se sont mariés en 1976. Elle était toujours avec lui, là, jusqu'à son décès. Elle a 73 ans, Candice Patou. Voilà. Sa dernière épouse avec qui il est resté très longtemps, un peu comme Claude Brasseur. Ce sont des gens qui finalement sont rares dans le cinéma de rester aussi longtemps avec la même épouse. Encore que peut-être qu'en France, c'est plus fréquent qu'aux États-Unis, par exemple. Ou peut-être que les couples se défendent plus facilement, les couples de cinéma, hein, aux États-Unis. Peut-être qu'en France, il y a un peu plus de ce côté, un peu, je reste avec toi. Allez, rêvons un peu. Voilà ce que je pouvais dire aussi sur Robert Hossein, Claude Brasseur. Voilà.
Très bien. Et donc,
comme ça, hein. Bon, je suis toujours un peu troublée, moi. Hein. Je sais pas, j'ai dû bégayer un peu. Je suis désolée, mes chéris.
C'est pour ça.
Je suis un peu troublée quand je fais des hommages comme ça.
On va continuer maintenant avec la proposition de tes films. Donc, vu que les cinémas sont toujours fermés, ce sont des films historiques de la Cinémathèque mondiale que tu nous proposes. Et on va débuter avec un film de 1939 qui s'appelle Elle et lui.
Elle et lui. Et oui, alors c'est le Elle et lui de 1939 parce qu'en fait, il y a eu un Elle et lui également en 1957. Mais celui de 1957, repasse parfois. Il repasse parfois à la télévision, donc on peut le revoir. Donc j'ai préféré, c'était Gary Grant et Debbie Ryker, bon voilà, mais j'ai préféré prendre l'autre qui est magnifique également et qui ne repasse jamais. Moi je ne l'ai jamais revu à la télévision. Il a pourtant été, je crois qu'il a eu 3 ou 4 Césars, enfin il a eu un tas de prix à l'époque. Et il va être repris, il va y avoir une reprise peut-être sans doute là, peut-être en février, peut-être en mars, de ce film. Et bon, dommage qu'il ne repasse jamais. C'est un film de Léo McCarey. Alors Léo Macarec, pardon, c'est un, oui j'ai la voix un peu, excusez-moi, hein, j'ai la voix un petit peu bizarre. C'est donc un réalisateur américain, voilà. Et lui, il a eu 4 Oscars et pourtant le bon, dommage pauvre homme parce qu'il aurait pu faire d'autres films très très beaux. Malheureusement, il est décédé à 60 ans, en 1969. Mais il avait eu le temps d'avoir 4 Oscars, ce qui prouve que c'était certainement quand même un très bon réalisateur. Ah, ce film est très beau. Alors lui, en 1937, il avait tourné une comédie qui est très belle aussi, cette sacrée vérité, avec Cary Grant et Irène Dunne. Et puis en 1942, Lune de miel mouvementée avec Cary Grant et Ginger Rogers, qui est un petit délice à regarder. Vraiment. Alors là, dans Elle et lui, c'est Charles Boyer. Lui, et elle, c'est Irène Dunne. Alors, Irène Dunne, apparemment, c'était quand même l'actrice préférée de Léo McCarré, puisqu'il a utilisé dans presque tout ce qu'il a fait. Hein, ouais. Mais elle est très talentueuse et très belle. Ce n'est pas très étonnant qu'il ait pris pour des films aussi beau. Alors Elle et lui, c'est considéré par beaucoup de gens de cinéma comme un des plus beaux films d'amour du cinéma. C'est une histoire d'amour merveilleuse et vraiment, vraiment, hein, c'est... Moi j'ai de la chance parce que je l'ai en DVD, celui de 39. J'ai l'autre aussi, mais j'ai celui de 39. Ça me permet de le regarder de temps en temps. Voilà, les deux sont pleins de tendresse, pleins d'humour, plein de... Charles Boyer avait beaucoup d'humour aussi dans son jeu, comme Cary Grant, en fait, qui a beaucoup d'humour aussi, et quand il joue, et Irène Dunne, qui est tout à fait épatante. C'est une belle histoire quand même. C'est l'histoire de Michel Marnet, qui est un playboy français de la haute société, et Thierry McKay, qui est une ex-chanteuse américaine de cabaret. Ils tombent follement amoureux à bord du paquebot qui les ramène à New York. Michel, lui, doit conclure un riche mariage avec Lois Clark, et Thierry est la fiancée de Kenneth Bradley. Ils décident malgré tout de se retrouver 6 mois plus tard, victime d'un accident le fameux jour du rendez-vous. Thierry préfère s'effacer pour ne pas être un poids pour Michel. Mais le destin finirait par les réunir. Alors je ne vous raconte pas toute l'histoire, je ne vous dis même pas où ils ont rendez-vous, je ne vous dis pas ce qui lui est arrivé après son accident, etc. Parce qu'il faut le découvrir en regardant le film. On ne peut pas tout dire, c'est dommage. Mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est un très beau film d'amour. Vraiment. Mais j'aimerais bien que celui-là repasse quand même de temps en temps pour que nos auditeurs qui aiment le cinéma puissent le voir aussi. Enfin, vous pouvez le trouver, hein. Vous pouvez le louer, pas cher. Et sinon, vous pouvez trouver le DVD également. Hein, pas cher non plus, d'ailleurs. Voilà. Donc, il est à la portée quand même de tout le monde. Mais, bon, dommage quand même. Il pourrait le repasser de temps en temps. Quand on a une belle histoire d'amour sous la main. Puis Charles Boyer, au fait, Charles Boyer, lui, c'était un Français au départ. Après, il devient américain, il est franco-américain, parce qu'il a fait toute sa carrière aux États-Unis. Il était marié à une actrice américaine, d'ailleurs. Mais il est né dans le sud-ouest, hein. Il est né pas loin de Bordeaux, là. Non, il est né, pardon, je suis en train de dire une grosse bêtise, il est né dans le 47. Il est né dans le 47.
Dans le Lot-et-Garonne.
Oui, oui, Charles Boyer, extraordinaire acteur. Enfin, il a fait une très, très, très belle carrière. Il est né à... Non, c'est dans le Lot. Décidément, je suis fâchée avec les départements.
Donc, dans le 46.
Il est né à Figeac, dans le Lot. Figeac, ça te dit quelque chose?
Oui, dans le 46.
Voilà, c'est bien ça. Hein,
c'est ça.
Enfin, c'était pas loin. Voilà. Et alors il a eu une très belle vie avec son épouse, mais quand elle est décédée en 1978, et lui, quelques mois après, à peine 2-3 mois je crois, à l'âge de 78 ans, il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Authentique, hein. Il ne pouvait pas vivre sans elle. La mort de son épouse l'a foudroyé au point qu'il a préféré partir. Ouais. Donc il pouvait jouer dans un film comme ça, dans un film avec une belle histoire d'amour. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà.
Très bien. Donc en deuxième film, nous allons poursuivre avec Un million clé en main, sorti en 1948.
Oui. Alors celui-là, celui-là, on rit tout le temps. Hein. On rit quasiment d'un bout à l'autre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a un Cary Grant là-dedans, mais alors, épatant, mais vraiment, mais alors, c'est quelque chose. Hein. Mais on rit beaucoup, 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 d'un bout à l'autre. Je crois que tous ceux qui l'ont regardé au moins une fois ont beaucoup ri. Donc tu as bien dit 1948, ça dure 1h34. Voilà. Et donc, c'est un film de Henry Goodman Potter, qui est un réalisateur, un scénariste américain. Lui, il est décédé en 1977. Il avait 72 ans. Pas très vieux non plus, dommage. Parce qu'il faisait de belles choses. Ouais, oui. Enfin, c'est une belle comédie américaine. Et avec Cary Grant et Myrna Loy et Melvin Douglas. Là, c'est trois champions, hein, vraiment. Hein, ils sont extraordinaires. Alors, ça, pour nos auditeurs qui veulent faire construire une maison, hein, qui veulent acheter une maison, voilà, ils vont visiter la maison, elle n'est pas trop mal, et en fait, bon, bah après, il y a plein de travaux à faire. Je leur conseille de regarder le film avant d'acheter la maison. Ah oui, franchement. Parce que c'est ça le thème, hein. Clé en main, c'est une maison, c'est l'histoire d'une maison. Alors lui s'appelle Jim Blandings, hein, c'est Cary Grant. Il se sent trop à l'étroit dans son appartement new-yorkais. Ben oui, ils ont deux petites filles, ils sont quatre dans un appartement qui n'est pas très grand. Alors ils rêvent d'acheter une maison. Alors ils achètent, enfin lui il achète la ferme délabrée que lui propose un agent immobilier futé. Jim et sa femme découvrent que leur nouvelle maison menace de s'effondrer et décident de l'abattre et de construire à la place celle de leurs rêves. C'est le début, d'une interminable série de problèmes. Et c'est tordant. Mais vraiment, hein, c'est, en ce moment, là, c'est vraiment des films comme ça à regarder parce que c'est... On a besoin de ça, on a besoin de rire, et celui-là, franchement, un million, clé en main. Mais si finalement, alors c'est clé avec un S, hein, j'en avais parlé, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'S à clé, je crois.
Oui, tout à fait.
Oui. Non, mais finalement, sur la fiche, il y avait un S. Ah oui, bon, bah, c'est des clés. Bon, bah voilà, il y a toujours plusieurs clés pour une maison, non? Mais c'est ça, l'histoire, hein, c'est vraiment... Et là, celui-là, oh là, c'est pétillant, c'est magnifique. Ah oui, vraiment, hein, un million. Ben c'est pareil, il ne repasse jamais, moi je ne l'ai jamais vu repasser, même sur les chaînes cinéma, on ne le voit pas repasser. Ah oui, je vous conseille également, enfin, mes chéris, franchement, si ça ne vous gêne pas, soit vous connaissez bien l'anglais et il n'y a pas de souci, soit si ça ne vous gêne pas trop de lire... Les sous-titres, moi je vous conseille de le regarder quand même en langue originale. Ah oui, oui.
Donc ça s'appelle Un million clé en main. Et nous allons continuer avec deux films, donc sortis un an d'écart, qui est Le père de la mariée et Allons donc, papa.
Alors, voilà. Alors c'est pareil, ça, c'est deux petits trésors. Vraiment, qu'on ne revoit jamais non plus. Voilà, c'est quand même dommage. Alors oui, c'est... Alors le premier, il y en a deux, hein, qui se suivent. Hein. C'est pour ça que j'ai pris les deux. Alors le premier, c'est Le père de la mariée. Alors ça, c'est pareil. On rit beaucoup. C'est plein de tendresse, c'est plein d'humour. C'est une comédie, c'est de la romance, c'est américain. C'est de Vincente Minnelli, qui est un très, très, très grand réalisateur. Vincente Minnelli, c'est pas n'importe qui. Ben, entre autres, d'ailleurs, Vincente Minnelli, c'est le père de Lisa Minnelli. On connaît quand même la chanteuse et danseuse qu'on connaît bien. Et c'est quelqu'un qui, bon, voilà, qui a tourné des films extraordinaires. Là, il a pris Pour les rôles principaux, il a pris Spencer Tracy, grand acteur. Elizabeth Taylor, ah bah oui, Elizabeth Taylor. Il y a Taylor Holmes aussi. Ah bah il a pris là des... C'est un beau casting. Hein. C'est vraiment un très très beau casting. Ça aurait été dommage. Alors donc le film, tu l'as dit, est de 1950, il dure 1h32. C'est donc, alors Vincent Minnelli, lui il est décédé à 83 ans en 1986. Il avait été marié pendant 5 ans, je crois, de 45 à 50, à Judy Garland. Judy Garland, la grande Judy Garland. Et puis donc il y a eu après sa fille Lisa Minnelli. Donc elle est née, Lisa Minnelli, elle a dû naître en 1946. Alors on lui doit Vincent Minnelli, juste comme ça pour le situer, 1951, Un Américain à Paris, très connu, Gene Kelly et Leslie Caron, ah oui ça c'est... En 1952, Les Ensorcelés avec Lana Turner, sublime, et Kirk Douglas. Puis en 1958, on a Gigi avec Leslie Caron, Maurice Chevalier, Louis Jourdan. Et en 1964, on a Au revoir Charlie avec Tony Curtis, Debbie Reynolds. Alors Debbie Reynolds, pour la resituer, la situer en tout cas, c'est la mère de Carrie Fisher. Et qui est Carrie Fisher? C'était la princesse Leia. Tu connais la princesse Leia?
Tout à fait, oui. C'est la princesse dans Star Wars.
Voilà, c'est Carrie Fisher. C'était la fille de Debbie Reynolds. Elles étaient extrêmement attachées l'une à l'autre, véritablement. Hein. Et du coup, Debbie Reynolds est décédée en 2016. Et sa fille a eu tellement de chagrin, un peu comme l'histoire de Charles Boyer, qu'elle est décédée également en 2016. Sauf que la maman avait 84 ans et que Carrie Fisher avait 60 ans seulement. Eh oui, elles sont décédées. Il y en a une qui est décédée le 27 décembre de l'année 2016 et l'autre le 28 décembre. Elle lui a survécu 2 jours, sa fille, hein, Debbie Reynolds. Elles étaient tout le temps ensemble, elles vivaient côte à côte, une maison à côté, chacune sa maison l'une à côté de l'autre. Enfin, elles étaient absolument inséparables, sentimentalement, et du coup, ben voilà. Et donc le père de la mariée, alors le père de la mariée, Spencer Tracy, qui est épatant, mais alors vraiment là-dedans, il est virevoltant, épatant. Alors il nous dit que, alors il s'appelle Kay Banks, voilà, et il décide tout à trac. Il s'appelle pas Kay Banks, Kay c'est un prénom de femme, c'est Elizabeth Taylor qui joue sa fille, qui joue la fille de Spencer Tracy dans le film, elle s'appelle Kay. Et son papa s'appelle Banks, donc elle s'appelle Kay Banks. Elle décide, tout à trac comme ça, d'épouser Buckley Dunstan. Elle le connaît depuis longtemps. Hein. Depuis qu'elle a fait ses études, elle le connaît. Ils se sont rencontrés à la faculté. Alors pour Stanley T. Banks, qui est son père, modeste avocat, ce n'est pas une mince affaire, car il veut être sûr que sa fille ne se trompe pas. C'est pareil, je ne peux pas trop raconter non plus, parce qu'il faut découvrir au fur et à mesure. C'est vraiment épatant. Mais alors, si on a des auditeurs, des papas qui comptent bientôt marier leur fille, ou plutôt que la fille déclare qu'elle va se marier, ils devraient également regarder le film avant. Ouais, avant de prendre des décisions pour ce beau jour de mariage. Voilà. Oui, il vaudrait mieux regarder avant. Ça peut donner des idées et ça peut un petit peu, comment dire, ça peut être de bons conseils. Ça dure 1h33. C'est épatant comme tout. Mais comme c'était un film formidable, il y a une suite, la suite quasiment immédiate. Ça s'appelle comment après?
Alors, la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, s'appelle Allons donc papa.
Oui, Allons donc papa. Le titre est un peu bêta, alors que le film est formidable. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est la traduction en fait, hein. Puisque c'est un film américain, c'est la traduction du titre. Le vrai titre américain, je trouve, c'est Father's Little Dividend. Comme c'était un titre un peu compliqué, il a été traduit par Allons donc papa. Donc c'est toujours, on reprend les mêmes en fait, hein. Ça dure 1h21, on reprend, c'est Vincent et Minnelli bien sûr, c'est toujours Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Joan Bennett, c'est la celle qui joue l'épouse d'ailleurs aussi, je crois que je l'avais pas cité tout à l'heure, Joan Bennett. Ouais, c'est ça, voilà, c'est l'épouse. Don Taylor, c'est le futur marié. Il y a Billy Burke, c'est la maman du marié. Et puis le papa du marié, c'est Maureen Sen. C'était de grands acteurs de l'époque, en fait, quand même, hein, qui étaient très connus à l'époque. Et voilà, alors là, c'est ben, Stanley, toujours lui, le père de la jeune mariée, et dans tous ses états. Un heureux événement se prépare chez la famille Dunstan. Kay attend un bébé. Pour Stanley, l'art d'être grand-père est une source de cauchemar, tandis que Ellie, son épouse, s'en trouve bien aise et redouble de mondanité pour mettre toutes ses amies au courant. Là, c'est pareil, il y a tas de choses à dire, mais qu'on ne va pas dire parce qu'il faut regarder le film. Et alors, il y a des scènes incroyables. Il y a quand même une scène, on peut le dire. Il y a une scène où Spencer Tracy donc promène l'enfant. On lui a demandé, les femmes étaient occupées, on lui a demandé d'emmener le landau, enfin d'emmener le bébé dans son landau, se promener à l'heure pure comme ça dans le parc. Et il arrive dans un parc, il bloque donc le landau, et puis il regarde, il y avait des enfants qui jouent au ballon. Alors à un moment donné, le ballon arrive près de lui. Alors bon, bah, c'est plus fort que lui. Hein. Il, hop, allez, il voit le ballon. Il se lève, il va vers les enfants. Et puis finalement, c'est des petits garçons et qui se mettent à jouer comme ça devant lui. Et il se met à jouer également avec les petits enfants. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais j'ai cru comprendre que c'était 45 minutes. Que le jeu a duré 45 minutes. Et quand il revient pour chercher le landau, évidemment, le landau a disparu. Ramassé par des policiers qui d'ailleurs sont en train de s'amuser avec le bébé, ils sont dans leur bureau, là il y a le bébé qui est sur le bureau et tous les policiers s'amusent avec lui, enfin voilà, il est adorable, il est souriant et il s'amuse avec... voilà, bon bah évidemment qu'il va le retrouver, mais bon après je vais pas tout raconter. Mais c'est une scène quand même extraordinaire. Mais Spencer Tracy, c'est fou, il a un talent. Il a un talent extraordinaire, hein, qui se sent dans ce film absolument. Spencer Tracy. Et voilà.
Et quand même. Et donc après cette doublette, le père de la mariée et allons donc papa, on va terminer avec une triplette. C'est oui. Sorti en 1951, 1952 et 1955, Caroline Chéri, Un caprice de oui. Caroline Chéri et Le fils de Caroline Chéri, film de Jean et de oui. Lèvre. Et, oui. et le premier est sorti, film de Richard Potier. Alors, c'est qui Caroline et Chéri oui.
Et il faut dire, Damien, que ces films ont eu beaucoup de succès à leur sortie. Hein. Ah oui, le premier, donc tu l'as dit, 1951. Bon, c'est comédie dramatique, hein, voilà. Ça dure 2h20 quand même, hein. C'est français. Et c'est de Richard Potier. Richard Potier qui est un réalisateur français, décédé en 1994. Il avait 88 ans. Et le scénario, quand même, hein, c'est du sérieux. Le scénario est de Jean Anouilh. Jean Anouilh, le dramaturge. Hein. Et je me suis souvenu tout d'un coup que Jean Anouilh était né à Bordeaux.
C'est vrai.
Ah oui.
C'est vrai, c'est
décidément,
vrai.
On est dans une région où des gens très intéressants sont nés, là, quand même. Je blague. Mais n'empêche, il est quand même né à Bordeaux. Hein. Il est décédé en 87, lui. Hein. Il avait 77 ans, Jean Anouilh. En tout cas, c'est lui qui a fait le scénario. Hein. C'est lui. C'est lui le scénariste de Caroline Chéri. Alors, Richard Potier, bon, si quand même, on va le situer un petit peu. En 1954, il a réalisé Le Masque de Fer. Il y avait, en 1950, Le Masque de Fer, c'est le soi-disant frère de Louis XIV. Hein. Tout le monde connaît un peu cette histoire. Tu connais, toi, Damien, quand,
Le oui, Masque oui, de Fer ? Oui, tout à fait. Ouais.
Mmh. Oui, hein, on le connaît. Très chouette comme histoire, très chouette. En 1956, il a réalisé La Châtelaine du Liban, qui est un film superbe, avec Jean-Claude Pascal, Diana Maria Canal, et splendide actrice, Omar Sharif, La Châtelaine du Liban. Ensuite, en 1958, il a réalisé Tabarin avec Michel Piccoli, très beau film aussi. Et puis 1961, c'est L'Enlèvement des Sabines. Et alors, c'est un peu curieux comme film d'ailleurs, c'est Roger Moore qui fait partie de vedettes, et Mylène de Montjoux, qui sont dans ce film, entre autres. Et oui, des acteurs qu'on connaît bien quand même. Voilà, ça c'est Richard Potier. Il faisait de jolies choses, Richard Potier. Donc là, dans ce film, on a... Je commence par les acteurs. On a Martine Carole, c'est elle, Caroline Chéri. Délicieuse, Martine Carole. On a Jacques Dacmine. On a Nadine Allary. Enfin, de toute façon, il n'y a que des gens très très intéressants dans ce film. De très bons acteurs. C'est adapté, Caroline Chéri, du roman de Cécile Saint-Laurent, qui était de l'Académie française. D'ailleurs, c'est amusant parce que la série Caroline fera sa fortune à Cécile Saint-Laurent. Il y a un tel succès pour le roman et pour les films. Ouais, ça a vraiment fait sa fortune. Eh oui, comme quoi, hein, quand même, hein, de temps en temps, un écrivain peut avoir beaucoup de chance. Alors, c'est l'histoire de Caroline. Elle a 16 ans, le 14 juillet 1789. Au cours de sa fête d'anniversaire, Gaston de Sallanches, fiancé présumé de sa sœur, se déclare et lui fait connaître quelques émotions amoureuses. Envoyée à Paris pour parfaire son éducation, Caroline va traverser difficilement la Révolution, successivement arrêtée et délivrée avant de retrouver son premier amour. C'est Jacques Dacmine d'ailleurs qui joue le rôle de cet homme plein de charme qu'elle va bientôt épouser d'ailleurs. Voilà. Alors ensuite, quand est-ce qu'elle va pouvoir l'épouser? On va où après? Après Caroline Chéri?
Eh bien, après Caroline Chéri, comme je l'ai dit juste auparavant, on retrouve un caprice de Caroline Chéri.
Voilà! Un caprice de Caroline Chéri. Oui! Alors, on reprend pas tout à fait les mêmes. Les acteurs, oui. Mais le metteur en scène est nouveau, enfin le réalisateur, qui remplace Richard Potier, s'appelle Jean Devèvre. Alors, Jean Devèvre, c'est un réalisateur scénariste français. Lui, il est mort en 2004. Il est décédé à 91 ans. Donc, il a réalisé quand même une quinzaine de longs métrages. Alors, évidemment, un de ses plus connus, je l'ai mis de côté parce qu'en 1957, l'inspecteur mène la bagarre. C'était quand même avec Paul Meurice, c'était Louis Vel, Nicole Courcel, voilà, et Jeanne Marquen, c'est-à-dire des acteurs très, très, très célèbres de l'époque. Et c'est un truc très chouette, l'inspecteur mène la bagarre. C'est tout à fait charmant. Alors là, bon, un caprice de Caroline Chéri, 1952, hein, ça dure 1h44. Oh ben, l'autre durait 2h20, c'est ce que j'avais dit, 1h44. Mais on ne voit pas le temps passer en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Caroline est devenue la femme du général de Sallanches, c'est-à-dire la femme de Jacques Dacmine dans le film. Il est chef de la garnison française de Côme. Légère et insouciante, elle remarque très vite le beau danseur Livio. Mais une révolte l'oblige à se cacher avec son mari chez une comtesse qui n'hésite pas à dévoiler ses charmes. Furieuse, Caroline s'enfuit pour rejoindre Livio, qui est le chef des insurgés. Ben, elle est furieuse parce qu'elle est jalouse. Et oui, c'est sa jalousie qui la rend furieuse. Alors là, on a la comtesse, la fameuse comtesse qui dévoile ses charmes et qui veut charmer en fait Gaston de Sallanches, le mari de Caroline Martine Carole. C'est Vera Normand. Vera Normand était très, très, très belle également. Mais en fait, Martine Carole est très jolie, tout à fait déjà. Et ensuite, alors?
Et pour terminer, ça va être le fils de Caroline Chéri.
Ah voilà, le fils de Caroline Chéri. Ah, tu veux le fils de Caroline Chéri. Alors là, dans le fils de Caroline Chéri, qui date de 1955, qui dure 1h45, oui, c'est ça, 1h45, c'est le troisième volet donc de la saga, aventure, histoire, c'est français, c'est Jean Devèvre hein, qui s'y remet après le caprice de Caroline Chéri. Donc, en fait, dans ce film, Martine Carole n'apparaît, ben, elle n'apparaît pas. Ou plutôt elle apparaît, mais en portrait, dans le bureau de son mari de cinéma, hein, le général de Sallanches, toujours incarné par Jacques Dacmine. Donc, en fait, on lui avait proposé, Jean Devèvre lui avait proposé d'apparaître dans deux ou trois scènes dans le film, puisque là, elle a vieilli, puisqu'elle a un fils qui est adulte. Donc, il faut quand même être un peu logique. Si elle a un fils qui est adulte, c'est qu'elle a un peu vieilli quand même. par rapport aux deux autres films. Et elle devait avoir que deux ou trois petites scènes, et finalement, elle n'a pas donné sa réponse tout de suite. Et puis après, elle a dit, ben non, ça n'intéressait pas. Je pense qu'elle était quand même encore jeune, l'actrice, et qu'elle n'avait peut-être pas envie d'apparaître en femme mûre, mère de famille, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on la voit, effectivement, il y a une scène où on voit son portrait dans le bureau de son époux.
D'accord.
Voilà, donc c'est... Par contre, alors on découvre dans ce film une débutante, une toute jeune débutante qui s'appelle Brigitte Bardot.
Ah oui.
Brigitte Bardot apparaît. Ah oui, oui, là, c'est très rare de la voir à cet âge-là, à ses débuts. Hein. On n'en a pas beaucoup, quand même. C'est... Alors donc, c'est l'histoire, c'est que pendant les campagnes napoléoniennes, et je sais qu'il y en a eu, hein, c'est le jeune Juan d'Aranda. Alors, c'est le fils de Caroline Chéry qui s'appelle Juan d'Aranda. Voilà. Mmh. Il se croit espagnol, ce Juan, et son engagement va le mener à travers l'Europe napoléonienne, de combat en duel, d'embuscade en prison, et de fille en fille, jusqu'à l'arrivée en Espagne de sa mère, Caroline. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Donc, il a rejoint, en fait, il se croit espagnol, parce qu'il a un nom espagnol, et il décide de rejoindre la résistance, quoi, pour lutter contre l'envahisseur français. Ce qui est quand même très embêtant quand on est français soi-même, là. C'était quand même un souci. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas évident, on pouvait avoir un nom comme ça, étranger. Puis en fait, non, pas du tout, on ne l'était pas du tout. C'était assez simple, hein. C'était même assez simple de changer de nom. Pendant ces époques un peu tourmentées quand oui. même, hein, les époques, ouais.
Ok.
C'était pas très sûr tout ça. Donc le fils c'est Jean-Claude Pascal.
D'accord.
Eh oui. Qui va tomber amoureux de Brigitte Bardot.
Eh oui.
La jeune Brigitte Bardot.
Étonnamment.
Alors on a Sophie Desmarais, il y a toujours Jacques Dacmin, on a Magali Noël, on a Georges Descrières, on a Alfred Adam, Robert Dalban, Daniel Secaldi. On a Marcel Beauzuffy. Ouh, on a des pointures quand même dans ce film. Des pointures du cinéma quand même.
Eh oui.
Ah oui. C'est pas n'importe quoi non plus là.
Ok.
Eh oui.
Eh bien, très bien. Mais merci beaucoup pour cette sélection de films pour retrouver donc dans les podcasts sur le www.redem.com. Anne, je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve mercredi prochain à 11h pour une nouvelle conversation
voilà,
autour du cinéma.
Ben, je te souhaite aussi une très bonne semaine. À nos chers auditeurs, je souhaite aussi une très bonne semaine, on se retrouve très très rapidement. En tout cas, bon ben voilà, soyez bien heureux, que tout se passe bien pour vous. Prenez bien soin de vous, de votre entourage, et puis n'oubliez surtout pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.